Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de Jethro Tull et de son album Aqualung. Et avec moi, pour en parler, nous avons la chance d'avoir Guital.
Bonjour, bonjour Alain, du moins bonsoir. Bonsoir chers auditeurs, je suis très heureux de revenir faire entendre un petit peu ma voix sur les ondes de Côte Sud FM. C'est un vrai plaisir, merci de m'avoir invité.
Crois bien que le plaisir est partagé de t'avoir avec nous ce soir. Donc Jethro Tull est un groupe britannique de rock progressif, formé en 1967, originaire de Luton, dans le Bedfordshire, en Angleterre. Aqualung est le quatrième album du groupe britannique, est sorti en 1971 par le label Chrysalis Records. Il est considéré, malgré le désaccord des membres du groupe, comme un album concept abordant le thème de la distinction entre Dieu et la religion. Ian Anderson a composé et écrit l'intégralité des chansons. Il a produit également l'album avec l'aide de Terry Ellis. Le Jethro Tull qui a enregistré l'album Aqualung se compose de John Evan au clavier, Jeffrey Hammond à la basse, Clive Bunker à la batterie, Martin Barr à la guitare et Ian Anderson, véritable leader du groupe, chanteur, flûtiste, guitare et clavier. J'ai découvert cet album assez vite après sa parution. Et toi, Guital, comment as-tu découvert cet album ?
J'ai eu la chance de découvrir cet album pratiquement à sa sortie. J'avais un excellent ami à l'époque qui nous fournissait en galette vinyle. Et de toute façon, cet album, on ne pouvait pas passer à côté en raison déjà de sa pochette. Donc on s'est jeté dessus.
C'est vrai que cette pochette ne peut pas laisser indifférent, mais on va y revenir. Et c'est vrai aussi que l'album représente un tournant notable quant au style du groupe, avec plus de claviers, un assortiment de ballades acoustiques et de moments forts teintés de hard rock. Il consacre en fait l'orientation de Jethro Tull vers le rock progressif, genre déjà prédominant dans les albums précédents du groupe. En tant qu'album concept, Aqualung traite de thèmes récurrents, critique sociale et scepticisme religieux, ainsi que quelques sujets plus intimistes grâce au succès commercial international de l'album. Jethro Tull accède à une notoriété mondiale et s'impose comme un des pionniers du rock progressif britannique dès 1971. Le premier titre de l'album, Aqualung, qui a donné d'ailleurs le nom à l'album, est probablement la chanson la plus célèbre et la plus connue de l'histoire du groupe, reconnaissable par le fameux riff initial. Elle a toujours fait partie du répertoire sur scène. Elle a été écrite par Ian Anderson et Jenny Franks, qui était son épouse à l'époque. Et l'idée leur est venue en regardant une photo, justement, prise par Jenny un jour à Londres. Toi, Guital, comment considères-tu Aqualung ?
Bien déjà, quand on écoute le titre Aqualung, on voit la complexité de la musique, les mises en place, batterie, guitare, les overdubs qu'il y a sur la guitare. Puis bon,
tu veux dire que c'est un morceau complexe ?
Non seulement ils ont eu beaucoup d'imagination pour faire ce qu'on appelle en musique un score, c'est-à-dire écrire toutes les parties de tous les instruments pour pas que ce soit quelque chose à l'unisson ou simplement quelque chose d'arrangé harmoniquement.
Pourtant, je pensais que c'était juste un rock arrangé, quoi.
Rapidement, non. Eux, il y a des tas de phrases, ça part dans tous les sens, ça se répond, il y a des questions, il y a des tensions, il y a des résolutions. Et puis, on, plein milieu du morceau, on peut très très bien, quand on l'écoute, il passe tout à fait sur autre chose, il change de thème, il y revient. On est déjà un petit peu dans le système concept album, où, comme faisait Genesis, Yes, etc., où on raconte une histoire et la musique est là au service de l'histoire et pas inversement.
On n'en est quand même pas au rang de la musique classique.
Effectivement, c'est bâti comme de la musique classique, avec des ralentis, des nuances, des temps forts, etc. Tous les titres sont minutieusement et méticuleusement orchestrés.
En fait, tu confirmes qu'on est dans un moment particulier du rock.
D'un petit peu plus loin du rock traditionnel qu'on pouvait le composer à l'époque, les musiciens comme The Doors ou Led Zeppelin, etc., que j'adore naturellement. Mais on n'est pas du tout dans le même univers. Là, on est dans une recherche perpétuelle. Et puis, le texte, le côté théâtre est très, très, très important. Donc, on met la musique à son service. Et de quelle manière?
Eh bien, avant d'écouter le morceau, je précise juste qu'Aqualung est aussi le nom du scaphandre inventé par le commandant Cousteau pour découvrir le fond des mers. Il s'agit pour Jan Anderson de faire un parallèle entre la respiration malsaine du clochard et les sons de plongeurs en haute mer. L'histoire, en effet, se déroule en trois parties. D'abord, elle parle de la vie d'un sans-abri appelé Aqualung, un clochard sale et dégoûtant que personne au monde n'aidera jamais. Il est seul et malade, condamné à se pencher pour prendre une fin de chien, ce qui en argot anglais signifie « ramasser un mégot de cigarette ». Ensuite, on lui fait voir une lueur d'espoir vers la compassion, surgissant avec la rencontre du narrateur, avec notamment cette ligne « Aqualung, mon ami, ne sois pas mal à l'aise. » Mais pour finir, l'inévitable semble se produire, le froid ayant raison de la pauvre créature qui lui arrache ses dernières respirations. L'indifférence règne sur terre et les fleurs s'épanouissent comme la folie au printemps. Là, effectivement, Jethro Tull, et en fait Jan Anderson, plante le décor de son album et ce sera une suite de morceaux un peu de la même veine. Mais écoutons Aqualung comme introduction à ce fameux album.
Oh, one street in cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting fast as he bends to pick a target. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road. Salvation and alone.
Aqualung par Jethro Tull sur Oxy Web Radio qui reçoit aujourd'hui l'ami Kital. Le morceau suivant s'appelle Cross-Eyed Mary et raconte la vie difficile d'une fille de famille pauvre et qui en plus louche, d'où Cross-Eyed ou yeux croisés. Pour survivre, elle ne se prostitue qu'en se donnant à des hommes qui paient les mêmes conditions économiques que pour les autres filles. Or en fait, ils se tournent souvent vers elle car c'est la seule qui est disposée à se donner à eux. C'est pourquoi on l'appelle dans le texte la Robin Hood de Highgate, la Robin des Bois si vous préférez, du quartier Highgate. Aqualung est également mentionné dans le texte et est sûrement un de ses clients. En fait, Cross-Eyed Mary, encore écolière, préfère la compagnie d'Aqualung, surnommée aussi Leching Grey, ce qui veut dire en gros le grisonnant aux gros besoins sexuels, par les camarades de classe de la jeune fille. Et que pourrais-tu nous dire, Guital, sur ce que tu penses de Jan Anderson?
Ah, Jan Anderson, c'est une sacrée personnalité. Déjà, rien que je le disais tout à l'heure, cette pochette d'album, on voit cette espèce de clochard hirsute, on voit bien qu'il est en rébellion contre plein de choses, mais qu'il a un côté humour, dérision qui est là, et on peut un truc relativement cool, quoi. C'est pas agressif non plus.
Visiblement, tu aimes l'artiste et l'homme.
Donc c'est une belle personnalité, je pense que on le sent dans sa musique, il a pas de retenue quant à ses choix, je pense qu'il avait pas non plus beaucoup de retenue quant à ses textes et aux sujets qu'il voulait aborder. Voilà, encore un symbole d'ouverture.
Justement, tu parlais de la pochette, et là encore, effectivement, il y a une démarche un peu originale. En fait, cette pochette, elle est inspirée d'un tableau peint par un dénommé Burton Silverman. Elle présente en fait un portrait en aquarelle d'un sans-abri, barbu aux cheveux longs, portant des vêtements usés. C'est vrai qu'il ressemble un tout petit peu à Jan Anderson. Et en fait, cette inspiration pour la couverture provient d'une photographie prise par la femme de Jan Anderson, Jenny, qui l'a prise un jour en prenant en photo un vagabond près de la Tamise. Et Jan Anderson expliquera plus tard qu'il aurait plutôt mieux valu utiliser la photographie de Jenny plutôt que de faire peindre la pochette. Tout ça pour expliquer qu'en fait, il n'avait pas été totalement convaincu de l'intérêt de reproduire le tableau peint par le dénommé Silverman. Et lequel Silverman, lui, assure, s'agit d'une peinture sans modèle qui lui est venue comme ça. En fait, on lui a fait une commande et finalement, il a réalisé ce tableau qui, comme par hasard, a été vendu au directeur du label Chrysalis qui a produit le fameux album. Et le tableau original, utilisé pour les couvertures, avant et arrière de l'album d'ailleurs, est à présent la propriété d'une famille inconnue, après avoir été vraisemblablement volé dans une chambre d'hôtel de Londres. C'était donc Cross-Eyed Mary par Jethro Tull
sur Oxy Web Radio.
L'album Aqualung est en fait composé de deux parties. Une première partie qui s'appelle Aqualung, qui contient six chansons, les six chansons restant un peu sur la même veine, c'est-à-dire décrivant la misère qui règne à Londres. Et la deuxième partie, c'est My God, mon Dieu, en clair, et qui, là, parle finalement de religion. Et donc, le premier titre de cette deuxième partie s'appelle justement My God, et c'est une chanson comprenant des changements fréquents de rythme, et c'est l'une des pièces historiques et une des plus appréciées par les fans du groupe Jethro Tull. Guital, au fait, est-ce que tu savais que la religion était la cible de cet album ?
À cette époque-là, ça me fait toujours marrer quand je dis à cette époque-là, on en avait un petit peu après toutes les institutions, pardon, et également, bien sûr, tout naturellement, après les systèmes religieux. Et on pouvait encore, à l'époque, ne pas être frappé de censure et dire un petit peu tout ce que l'on voulait à ce sujet. Et Ian Anderson, c'est pas gêné de ce côté-là. De toute façon, même si ça avait été interdit, il l'aurait fait quand même.
C'était pas très courant, non, comme approche ?
Et c'était, même si c'était pas interdit, c'était quand même relativement dangereux par rapport à l'establishment, aux bien-pensants, etc. Donc, oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'il soit dans ce sens-là.
Je me souviens pas de beaucoup d'albums qui soient aussi virulents envers la religion.
Il n'était pas le seul à faire ce genre de choses, mais c'est une sorte de blues, en vérité, puisque le système religieux ne l'aide pas. Aide-toi toi-même, essaie de te débrouiller par tes propres moyens, fais-toi confiance, arrête de te laisser diriger, crois en ce que tu es, voilà, etc. C'est toute une philosophie, au fond.
Pour dire deux mots de la chanson « My God », le texte, en fait, est une critique amère des religions organisées, en particulier l'église anglicane. Anderson critique la conception dogmatique de Dieu, généralement imposée par toutes les églises, empêchant chaque homme de développer sa propre conception de la divinité et de sa relation à lui. La chanson n'est donc pas de la manière la plus absolue un manifeste anti-Dieu ou anti-religion, comme beaucoup l'ont pensé, et pensent encore à tort d'ailleurs, en raison d'une mauvaise interprétation du texte de My God. C'est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille du groupe, et c'est une lourde critique de l'église anglicane, appelée d'ailleurs sanglante dans la chanson, Bloody, un effet particulier que donne le long solo central de la flûte. En parlant de flûte, Guital, t'as des anecdotes sur l'utilisation de la flûte en général, et de Jethro Tull en particulier ?
J'ai pas vraiment d'anecdotes sur ces titres-là. Par contre, il y avait une question que l'on avait à l'époque. Autant les premiers auditeurs de Robert Johnson se demandaient s'il y avait un ou deux guitaristes, puisqu'ils entendaient à la fois la basse et la mélodie quand ils jouaient, et bien là, pour Ian Anderson, on se posait la question, on se disait, mais comment ça se fait ? On entend la voix à travers la flûte traversière.
Comment faisait-il alors ?
Il avait tout simplement eu la bonne idée de reprendre ce système qu'utilisent très bons harmonicistes, de chanter en même temps qu'il soufflait dans l'instrument, ce qui est quand même assez fabuleux. Et donc, longtemps, on s'est posé la question de savoir quel matériel il utilisait, comment c'était fait, est-ce qu'il y avait un overdub dessus, etc.
Ça devait être un sacré montage, non ?
Non, il le faisait comme ça. Et puis aussi, la dégaine toujours de Ian Anderson quand il joue, simplement en appui sur un pied, tel un faune comme ça, pour se rapprocher d'un petit peu de cette image-là, du faune. Je trouvais ça assez fantastique.
C'est vraiment un drôle de type, ce Ian Anderson. Bon, mais écoutons My God, première chanson de la deuxième partie.
What have you done? Locked him in his golden cage.
made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. He is the God of nothing, if that's all that you can see. You are the God of everything. He's inside you and me. So lean upon him gently, and don't call on him to save. An image, you know, with his plastic crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds.
C'était My God par Jethro Tull
sur Oxy Web Radio,
mais toujours avec Guital. La chanson suivante s'appelle Hymn 43. Oui, Guital, tu veux dire les choses ?
Eh bien, là, je vais t'avouer, mes morceaux préférés, c'est Hymn 43.
Sans blague.
J'aime ce titre-là pour la surprise qu'il m'a donnée à l'époque.
Tu peux expliquer un peu ?
Il n'y a pas d'intro. Le morceau commence, on dirait qu'on ouvre le volume comme ça et que le morceau a déjà commencé depuis une minute. Et je le trouve très, 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 très bien construit. Il y a beaucoup d'idées là-dedans.
Mais encore ?
Sincèrement, moi j'appelle ça des titres géniaux, voilà, parce que il y a tout ce que l'on attend, mélodie, percussion, mise en place.
C'est curieux parce que d'habitude on ignore plutôt ce morceau, enfin je dis habituellement.
Je sais pas, ça vient comme une évidence, et puis bon, cette façon d'entrer, de surprendre l'auditeur, comme s'il tournait le coin de la rue et que tout d'un coup il débarque comme ça dans l'univers du public, je trouve ça assez génial. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce titre-là.
Bon, mais heureusement que je l'ai sélectionné pour ce soir. Bon, enfin, en tout cas, ce morceau, c'est une autre pièce qui traite des thèmes de la religion. Et dans Hymn 43, ou l'hymne 43, si vous préférez, Anderson critique l'hypocrisie du peuple, en l'occurrence les chrétiens, qui prêchent le bien et grattent le mal. L'auteur ne veut pas être en colère contre la religion, en tant que telle, mais avec tous ceux qui prétendent être leurs partisans, mais qui se comporte alors de manière totalement opposée à ce qu'elle indique. Pour info, Hymn 43 fut sorti en single par Reprise Records. La chanson a atteint un bon niveau de résultats sur le Billboard 100, puisqu'elle est arrivée au 91e, ce qui n'est quand même pas si mal. Et d'ailleurs, pour terminer, je dirais que Ian Anderson a décrit la chanson comme un blues pour Jésus, au sujet des glorieuses, c'est-à-dire des chercheurs de gloire, qui utilisent son nom comme excuse pour beaucoup de choses peu recommandables. c'était In 43 de Jethro Tull
sur Oxy Web Radio
et toujours avec l'ami Guital avec nous. On arrive à un des morceaux phares de cet album, Locomotive Breath. C'est un autre chef-d'œuvre du groupe. La chanson est d'ailleurs toujours jouée en concert, en dernière partie du répertoire, et le texte parle du flux inexorable de la vie comparé à un train qui n'a aucun moyen de s'arrêter. Tiens Guital, je profite de l'occasion pour te demander comment tu classes Martin Barr, qui est le guitariste de Jethro Tull, et parmi le panel des guitaristes, le fameux panel des années 70.
Ben écoute Alain, je vais être très très franc, je me suis pas trop attardé sur le jeu du guitariste Martin Barr.
Bon, ben, est-ce que tu peux au moins nous parler de son jeu ?
Simplement, ce qui est resté en moi, c'est l'attaque, la façon de d'attaquer sa guitare qui est, voilà, il a, comme on dit dans le jargon, le médiator, il l'enfonce jusqu'au coude, quoi. Il n'hésite pas, il attaque très très fort sur la guitare. Et ça m'est resté. Ça, ce côté très percussif me plaît énormément.
Ouais, je suis étonné parce que moi j'aime beaucoup Martin Barr. Il est assez particulier dans son jeu, justement.
J'avoue que si j'écoute Aqualung, si j'écoute ce qu'a fait Ian Anderson, j'écoute tout un lot. Je ne m'attarde pas sur un musicien.
Avec du recul, je pense que tu as la bonne démarche, parce qu'au moins, tu ne restes pas bloqué sur un seul musicien, ce qui, je le reconnais, peut m'arriver parfois.
C'est un petit peu comme quand j'écoute, moi qui suis un néophyte en jazz, quand j'écoute du jazz, je me laisse bercer. Mais là, c'est un peu pareil. Ce groupe-là, mais je me laisse transporter, je ne le décortique pas trop.
J'espère néanmoins que tu aimes bien Locomotive Breath. Et en fait, qu'est-ce que tu retiens de ce jeu de Jethro Tull ?
Ah, de Jethro Tull, moi je reprenais Locomotive Breath. C'est un morceau que j'aime beaucoup, qui met tout de suite l'ambiance. Je le fais encore en acoustique de temps en temps avec mes vieux amis d'Ossium Trio.
Et comment réagit le public ? Notamment, il y a des jeunes parmi eux ?
De temps en temps, on joue ce morceau qui, même si dans le public, il y a des très jeunes qui connaissent pas ça, ils viennent nous voir et disent « C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ce morceau ? C'est à vous ?»
Ils ne le considèrent donc pas apparemment comme un vieux morceau, quoi.
Non, Locomotive Breath, ça a une énergie terrible, et le chant aussi dedans est très intéressant, il est goguenard comme ça, l'histoire est assez marrante en plus, voilà, donc j'ai repris celui-là.
D'une façon générale, c'est facile de jouer du Jethro Tull ?
Mais attention, reprendre du Jethro Tull, celui-là ça peut aller. Les autres, faut s'accrocher, ça se fait pas en deux répétitions, hein. Mais j'engage plein de gens à le faire, bien sûr.
Bien, il nous reste à écouter Locomotive Breath dans sa version de l'album, avec justement cette intro au piano qui m'a beaucoup marqué et qui était un des éléments qui m'a le plus intéressé à l'époque, sachant que ça annonce petit à petit l'arrivée du fameux riff de Locomotive Breath, celui que tout le monde connaît, et qui donne, je trouve, un cachet très particulier à ce morceau. Enfin voilà, bon, écoutez, je vous propose de vous faire votre opinion si vous ne connaissez pas encore ce morceau, et on se retrouve à l'issue.
Shuffling madness of the locomotive.
empty breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train it won't stop going. Oh, he took slow.
C'était Locomotive Breath par Jethro Tull
sur Rock et Web Radio.
Nous abordons le dernier titre de cet album. La chanson s'appelle Wind Up, justement, ça veut dire terminons. Et Guital, justement, globalement, que dire de l'œuvre des années 70 dont Jethro Tull me paraît être une partie très importante.
Au début des années 70, on a cessé d'être surpris par les créations des musiciens de l'époque. Et Jethro Tull, lui, a amené quelque chose en plus, de l'humour déjà, de la dérision. Et puis, cette histoire de musique classique, ça avait déjà été un petit peu abordé, mais lui l'a véritablement bien intégré. Et je pense que ça, c'était déjà un petit peu, même si ça sonne très très rock, déjà on sent une sorte de progression dans ce rock et quelque chose de très particulier qui se détaché un petit peu du reste de tout ce qu'on pouvait écouter dans ce genre de musique.
Tu penses donc bien que quelque chose de nouveau fut créé à ce moment-là, c'est ça ?
Oui, donc pour moi, musicien débutant à l'époque, eh bien ça a ouvert une nouvelle porte. L'utilisation, par exemple, de la flûte traversière, c'est assez incongru dans le rock'n'roll. Eh bien, voilà, on ne va pas rester figé, on va pouvoir faire d'autres choses, aller vers d'autres horizons. C'est un très bon album pour ça.
Parle de ce type d'album avec tes élèves, parfois.
Comme je l'ai dit précédemment, on était dans une époque très expérimentale. Donc, pourquoi ne pas s'amuser à mettre des instruments classiques dans des instruments et de la musique classique à l'intérieur du rock'n'roll ? Pourquoi pas ? Et c'était une bonne idée, ça.
Et donc, de ça, tu en parles avec tes élèves.
Alors, effectivement, quand tu parles d'élèves, aujourd'hui, moi, quand j'ai la prétention de donner quelques cours, je leur dis restez ouverts, mais restez ouverts à tout. À toutes les musiques, à tout ce qui peut vous faire vibrer, que ce soit du plus roots au plus classique adulé, faites-le, écoutez, chargez-vous de tout ça et ça va vous donner encore plus de vocabulaire, si je peux dire, pour vous exprimer et donner de l'émotion, donner de la vie, donner du corps à votre musique et à votre interprétation.
parler de Wind Up, l'inspiration pour cette dernière chanson est venue à Ian Anderson de sa propre enfance, car il a été forcé par ses parents d'aller à l'église. En particulier, il exprime tout son désaccord sur le fait que les enfants doivent suivre les croyances des parents, et à cet égard, l'expression « accident de naissance » est emblématique. Le choix de la religion, dans la grande majorité des gens, est déterminé seulement par le lieu où ils naissent et grandissent, et par le milieu social dans lequel ils vivent, et non pas par leurs propres convictions réelles. Et ça, c'est ce qu'affirme Ian Anderson avec une grande force. Ian Anderson évoque aussi l'utilisation fréquente de la technique de l'overdubbing sur cet album, et en particulier sur ce morceau, c'est-à-dire quand on rajoute des fragments de musique les uns sur les autres, ce qui consiste à enregistrer le chant et l'orchestre séparément, par exemple, et ensuite de les réunir. Il juge même l'enregistrement d'Aqualung similaire à celui d'un album de Pink Floyd. C'est dire à quel point ils ont été dans la technicité pour enregistrer cet album.
When I was young and they packed me off to school, and they taught me how not to play the game, I didn't mind if they groomed me for success or if they said that I was just a fool. So I left there in the morning without God tucked underneath my arm, the half-assed smiles and the book of rules. And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. I don't believe you had the whole damn thing all wrong. It's not the kind.
Success, or if they said that when I was young, and they packed me off to school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success, or if they said that I was just a fool. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. Well, you can excommunicate me on my way to Sunday school, and have all the bishops come and knock these lines. I don't believe you. You had the whole damn thing all wrong. He's not the kind you have to.
C'était Wind Up par Jethro Tull sur Oxy Web Radio. Et nous avons eu donc le plaisir d'avoir Guital parmi nous. Aussi, avant de conclure, mon cher Guital, aurais-tu des recommandations relatives à cet album ?
Je ne saurais trop recommander aux jeunes auditeurs ou aux gens. Ça m'étonnerait, ma génération qui ne connaissent pas Aqualung ou de Ian Anderson ou Jethro Tull, donc, de prendre cet album, de prendre du temps, de l'écouter tranquillement, de se laisser porter. Et surtout pour les musiciens, il y a plein de choses là-dedans. Pas simplement dans ce qu'on cherche toujours, un plan, une idée. Non, c'est pas ça. C'est la construction. C'est comment aller chercher la musique au plus profond de soi, s'exprimer totalement et ne pas rester dans des carcans musicaux de temps de mesure, de tempo, de choses comme ça.
Tu parles à un public en particulier ?
Donc n'hésitez pas, amis musiciens, si vous ne connaissez pas cet album, mais chargez-vous très très vite de cela et écoutez-le plusieurs fois. Et même les anciens musiciens, moi ça m'a fait vraiment plaisir de le réécouter parce que voilà, à 60 ans on n'a pas la même écoute qu'à 15 ans. Fiche comme musique. Non, faut pas. Il faut cet album. Il faut. Moi je l'ai dans ma, je l'ai dans ma petite discothèque personnelle. Mais offrez-vous-le. Faites-vous plaisir. Écoutez, Jethro Tull.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guital, pour ta participation. Et sache qu'à l'avenir, on sera toujours ravis de te voir venir nous aider pour présenter les albums auxquels tu tiens et qui, souvent, comme par hasard, sont un peu les mêmes que nous. Voilà. Bon, écoute, au plaisir, Guital.
Je vous remercie beaucoup à tous de m'avoir invité aujourd'hui. Longue vie à Open Blues et n'oubliez pas, roulez blues, mais tu le diras certainement mieux que moi à la fin de l'émission. Adichat.
Je ne voudrais pas terminer de parler de cet album sans mentionner les chansons dont on n'a pas parlé et qui toutes ont un dénominateur commun, à savoir il s'agit de ballades acoustiques. Et je vous invite de bien prêter l'oreille à ces morceaux. Vous verrez que là encore, Jethro Tull a su allier beaucoup de richesses dans ses compositions. La semaine prochaine, je vous parlerai du gentil Beatles, George Harrison. Première production, All Six Months Past, ne laissera personne indifférent. Sinon, il ne me reste plus que me mettre à l'unisson du guitare et à vous souhaiter pour cette semaine de rouler blues.